Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je continue avec le message de la Très Sainte Vierge à la Salette, qui est d'une importance capitale, et comme je vous le disais la dernière fois, les ennemis de l'Église ne s'y sont pas trompés. Il est d'une importance capitale, tout d'abord parce que il réveille les chrétiens endormis, mais surtout parce qu'il rappelle la vérité sur l'Église. L'âme de l'Église est sainte, immaculée, sans tache, c'est l'enseignement de l'Écriture sainte, mais le corps de l'Église comprend les justes et les pécheurs, et le corps de l'Église, par conséquent, contient nécessairement de nombreuses souillures. Et puis, la Sainte Vierge rappelle d'une manière très simple, sans faire un traité de théologie, quelles sont les limites de l'infaillibilité pontificale. Elle rappelle que même la hiérarchie peut gravement pécher contre la foi. Elle rappelle que le pape lui aussi peut être le complice du démon. Elle dit Rome. On pourra dire qu'un tel message n'est pas très enthousiasmant et qu'un sermon qui se contente de rappeler les dénonciations de la Sainte Vierge n'est pas très enthousiasmant lui non plus. Rassurez-vous, la Très Sainte Vierge nous appelle tous, et j'en parlerai au prochain sermon, elle nous appelle tous à la servir, et cela est vraiment enthousiasmant, mais on ne peut pas comprendre cet appel poignant de la Très Sainte Vierge si on n'a pas pris la mesure du drame auquel il faut remédier. On pourrait croire également que un tel sermon n'est pas très spirituel. Mais c'est oublier que notre vie spirituelle, l'exercice de la vertu, est d'abord tourné vers le bien de l'Église. C'est en servant l'Église qu'on se sanctifie. L'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu. Il a été créé pour ça, c'est le but, c'est la fin, et par ce moyen, sauver son âme. On ne sauve son âme que si on sert Dieu. Or, pour servir Dieu, ici-bas, il faut d'abord le servir dans la Sainte Église. Servir dans la Sainte Église, c'est la foi, c'est la charité, c'est l'extension de l'Église par ce qu'on appelle l'apostolat, et c'est, dans les périodes troublées comme aujourd'hui, la défense de la foi. Un livre a été publié il y a une dizaine d'années, à peu près, Monseigneur Lefebvre et la vie spirituelle, ou La vie spirituelle par Monseigneur Lefebvre. C'est un recueil d'extraits de conférences de Monseigneur Lefebvre sur la vie spirituelle. Eh bien, ce livre, quoiqu'il ne contienne que des textes ou des paroles de Monseigneur Lefebvre, est un livre mauvais, dangereux. Pourquoi ? Parce que Monseigneur Lefebvre mettait en premier la défense de l'Église. Il nous parlait très souvent de la crise dans l'Église, très souvent de la crise de la foi, de façon à nous inciter à mettre toute notre personne au service de la défense de la foi. Et c'est de cette manière qu'un chrétien se sanctifie. Tous les chrétiens, pas seulement les prêtres en premier, bien entendu, mais tous les chrétiens. On a oublié cette primauté du bien commun. On a oublié, bien sûr, le bien commun est un terme difficile à comprendre, mais il suffit de le prendre dans son sens le plus simple. Le bien commun, c'est notre bien à tous. Le bien commun, dans l'Église, c'est la foi, l'espérance, la charité, la pratique de la vertu. La foi est commune à tous, l'espérance est commune à tous, puisqu'il n'y a qu'un seul ciel, qu'un seul Sauveur. La charité est commune à tous, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, et là encore, qu'un seul Seigneur Jésus-Christ et qu'un seul Sauveur. C'est cela notre préoccupation première. Pourquoi faut-il être chaste? Parce que la chasteté est orientée vers le bien commun de l'Église. La chasteté parfaite des prêtres et des religieuses, c'est une évidence, et des célibataires et des vierges. Mais également, la chasteté qui respecte la loi dans le mariage pour avoir des enfants est orientée vers le bien commun. L'impureté, au contraire, est un égoïsme. Pourquoi est-on sobre? Pourquoi maîtrise-t-on la gourmandise? Il suffit de nous rappeler les paroles de ce bénédicité. Bénissez, Seigneur, la nourriture que nous allons prendre afin de vous mieux servir. Il y a d'autres bénédicités, mais celui-ci nous rappelait bien les choses. Afin de vous mieux servir. Ceci pour les vertus qui sont tout en bas de l'échelle, qui sont importantes, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais qui sont tout en bas de l'échelle, elles sont orientées, disons qu'elles découlent du bien commun, et donc elles sont orientées au bien commun. À plus forte raison, la vertu de force, qui est un degré au-dessus de la vertu de tempérance. Donc la connaissance de l'Église est absolument essentielle, capitale aujourd'hui, d'autant plus que cette connaissance a été gravement faussée. Il n'y a qu'à voir toute la controverse à propos de Mgr Vigano. Beaucoup l'accusent de cédévacantisme, c'est-à-dire lui reprochent de déclarer que Bergoglio n'est pas pape. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Il suffit de l'écouter pour voir qu'il défend la foi. Alors le problème du cédévacantisme, je suis désolé, est un détail. Face à la foi, c'est un détail. Mgr Lefebvre disait « Le problème du pape, des théologiens se pencheront dessus plus tard et nous dirons, nous donnerons les explications. Pour l'instant, ce n'est pas à nous d'étudier cela, donc ce n'est pas à nous de donner les réponses. Ce qui nous revient à nous, c'est de défendre la foi. » N'allons pas nous perdre, disait-il, dans cette question du pape. Bien sûr, comme les cédévacantistes ont mis le trouble, il a été obligé de mettre en garde contre eux, mais je crois vous l'avoir déjà dit, mais j'y reviens parce que c'est lamentable de voir qu'on critique Mgr Vigano, qui est vraiment un successeur de Mgr Lefebvre, un digne successeur de Mgr Lefebvre. Que Mgr Lefebvre reprochait-il aux cédévacantistes? Pas de dire que le pape n'était pas pape. Plusieurs fois, Mgr Lefebvre a dit que ce n'était pas cela le problème. Il l'a dit en privé, il l'a même dit en public. Disons au moins plusieurs personnes à la fois. En tout cas, moi, il me l'a dit plusieurs fois. Si vos confrères veulent être cédévacantistes, cela ne me gêne pas, ce que je leur demande, c'est de ne pas troubler la fraternité Saint-Pilis. Alors comme il y eut des prêtres qui troublèrent la fraternité Saint-Pilis, il demanda à ce qu'on reconnaisse que le pape était pape. Mais on est dans le domaine concret, là. Ce qu'il reprochait aux cédévacantistes, c'était le zèle amer. Ce qu'il reprochait aux cédévacantistes, c'était de dogmatiser cette question du pape. On a exagéré l'importance du pape parce que c'était facile face aux protestants de mettre les papes en valeur. Puis résultat, mais je vous l'ai déjà dit 10 fois, alors ce n'est pas la peine que j'y revienne. La question de savoir si le pape est pape ou non est une question de fait, pas une question de droit, pas une question de principe. Ça repose sur des principes, mais c'est une question de fait. De savoir si un époux est fidèle à son épouse, c'est une question de fait, ce n'est pas une question de droit. Cela repose sur une question de droit, bien entendu. Cela repose sur un principe, bien entendu, mais c'est une question de fait. Alors la Très Sainte Vierge vient rappeler que oui, hélas, ce fait est possible, Rome peut perdre la foi, l'Église peut être éclipsée, le clergé peut être dans tout son ensemble infidèle à sa mission. Ouvrez les yeux, nous dit-elle. Que contient le message de la Salette? Je ne parle pas de ce qui a été révélé dès le début, qui est assez bref d'ailleurs, et dont je vous ai déjà parlé. Elle reproche au peuple chrétien ses blasphèmes, de manquer la messe, de manger de la viande le vendredi, de vivre comme des païens. Que contient donc le secret qui pouvait être révélé en 1858 et qui fut révélé, je crois, en 1860, quelque chose comme ça? Voilà comment il commence, c'est la première phrase. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Leur mauvaise vie et des cloaques d'impureté, hélas, tout ce qui est révélé actuellement sur les affaires de mœurs du clergé, il y a une exagération, les francs-maçons en profitent, ils font tout pour attaquer l'Église, hélas, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Les prêtres, par leur impiété à célébrer les saints mystères, depuis le rite nouveau de la messe, le rite qu'on dit de Paul VI, c'est une évidence que les saints mystères ne sont pas célébrés comme il convient. L'amour de l'honneur, oui, c'est vrai notamment chez les évêques. Les évêques sont nommés par le gouvernement, ils font très attention, pas tous bien entendu, mais la plupart font très attention à ne pas déplaire au gouvernement pour ne pas perdre leur place. Alors une petite précision, il semblerait que la Sainte Vierge condamne tous les prêtres. Mais il y a un psaume qui dit « Dieu a regardé la terre, il a cherché un homme, ne serait-ce qu'un seul, et il n'en a pas trouvé un, pas même un seul. » Tous les commentateurs disent qu'il s'agit là d'une figure de style, et que Dieu a trouvé des hommes sur la terre. Eh bien, c'est la même chose pour la très sainte Vierge. Oui, la sainte Vierge continue. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel, et appelle la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Le sacrilège de la cérémonie, c'est un grand mot, des Jeux Olympiques, ce sacrilège n'a été dénoncé pratiquement par aucun évêque, et surtout, personne implore miséricorde. Personne n'a demandé, ou très peu ont demandé pardon publiquement pour le peuple. Quant au scandale de Bergoglio, pour l'instant, si, il y en a un qui remet les pendules à l'heure et qui dénonce le mal, mais on le traite de cédévacantiste. Il n'y a plus d'âme généreuse, continue la très sainte Vierge. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Alors la Sainte Vierge complète, plutôt elle authentifie ses déclarations par les châtiments, l'annonce des châtiments qui vont tomber. Je passe un peu, je vais un peu plus loin. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Alors il s'agit des rois, il n'y a plus beaucoup de rois, des présidents, des chefs civils, mais ça n'exclut pas les chefs religieux. Après cela, la Sainte Vierge annonce l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du monde. Alors il y a une première période, qui est la période contemporaine, une période grave, je viens de vous le dire. Dans cette première période, la Sainte Vierge déclare que le pape aura beaucoup à souffrir et qu'elle le soutiendra. Il s'agit de Pie IX. Dans un autre passage, elle déclare également qu'elle soutiendra le pape. Et puis, elle annonce une restauration. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes, Jésus-Christ sera servi, adoré, glorifié, la charité fleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, il faut croire qu'il ne l'est pas encore, l'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Donc, après la période actuelle, qui est une période d'apostasie, il y aura la réconciliation de Dieu avec les hommes, comme la Sainte Vierge vient de vous le dire. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue, c'est Marie qui parle. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. L'Apocalypse dit 2 générations, si je me rappelle bien. Donc, cette période ne sera pas longue à cause de l'abondance des récoltes qui fera oublier Dieu. Après cela, viendra la grande épreuve de l'Antéchrist, mais elle sera précédée par une période intermédiaire qui sera la suite de cette période de paix, mais ce sera une fausse paix dans le monde, sont les paroles de la Sainte Vierge. Il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront, grandiront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par le Saint-Esprit. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge, mais je ne veux pas anticiper là-dessus. Donc après la paix avec Dieu, viendra une paix sans Dieu, mais cela ne durera pas et ce sera les grandes batailles, les grands combats contre l'Antéchrist. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ça, ce sont les paroles de la Très Sainte Vierge. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation, et donc ces grands combats, voilà Enoch et Élie, qui sont annoncés par l'Écriture Sainte. La Très Sainte Vierge ne fait que reprendre ce que nous savons déjà par la Révélation. Tous les deux emplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu. Beaucoup d'âmes seront consolées, oui, dans les combats, elles seront consolées. Il faut lire les récits des martyrs pour voir quelle est leur joie. Aujourd'hui, nous avons fêté Saint-Laurent, il faut voir la joie de Saint-Laurent dans les épreuves. Et c'est la même chose pour tous les martyrs, les Rose U et plein d'autres. Et une dernière fois, Dieu se laissera fléchir, c'est toujours la Sainte Vierge qui parle, par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir, Enoch et Élie seront mis à mort, la Rome païenne disparaîtra, le feu du ciel tombera et consumera 3 villes, Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. La foi seule vivra, cela veut dire deux choses. Cela veut dire que dans ces combats, il n'y aura que la foi qui sera encore quelque chose de vivant. On ne pourra s'appuyer que sur la foi, on ne se battra qu'avec la foi. On n'aura quasiment plus de secours humain. Et cela veut dire que la foi vivra, à la fin mon cœur immaculé triomphera, dira Notre-Dame à Fatima, et ce sera la fin du monde. Une dernière remarque, avant que j'achève, comme toutes les prophéties, les annonces se recouvrent plus ou moins chronologiquement. Rappelez-vous, dans l'Évangile, notre Seigneur fait la prophétie de la fin du monde, mais avant, juste avant, il fait celle de la chute de Jérusalem. Et il n'est pas très facile de discerner ce qui concerne la chute de Jérusalem et ce qui concerne la fin du monde. Mais là, c'est la même chose. Il n'est pas très facile de discerner exactement ce qui concerne la période du 19e, la période présente qui précède le renouveau, la période de l'antéchrist. L'Église sera éclipsée, cela semble plutôt être pour l'antéchrist. Rome perdra la foi, ça sera au moment de l'antéchrist de façon nette, radicale, si l'on peut dire. Mais c'est déjà un peu le cas maintenant. Et de même que notre Seigneur avait fait les deux prophéties sur la chute de Jérusalem et sur la fin du monde, en les mêlant, la Sainte Vierge fait un peu la même chose ici. Pourquoi ? Parce que c'est le même problème. Les mêmes péchés, le même problème de foi, qui sera plus intense après, moins intense maintenant, mais qui est déjà là. Alors l'Église n'est peut-être pas complètement éclipsée aujourd'hui, mais son éclipse est au moins partielle. Rome n'a certainement pas complètement perdu la foi, mais celui qui est sur le trône de pierre, il semblerait bien que non seulement lui il l'ait perdu, mais il la combatte de toutes ses forces, etc. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir à quel point on en est, il y a deux choses qui comptent. La première, c'est de voir que tout le drame est dans le péché et dans l'abandon de Dieu, et la deuxième, de voir que la Sainte Vierge nous demande d'être fidèles. La solution de ce problème, c'est la foi des justes, elle parle beaucoup des justes. La prochaine fois, je vous lirai les paroles qui sont un appel pressant aux justes. Les justes qui vivent du Saint-Esprit, rappelez-vous, elle vient de le dire, le Saint-Esprit sera beaucoup plus actif dans toute cette période, et cela a commencé, oui, bon, il est temps que je m'arrête, le sermon est long, cela a commencé dans le désarroi actuel. Nous voyons que les âmes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont capables de juger ce que des grands ne sont pas capables de juger lorsqu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Il faut croire, mes bien chers frères, il faut croire à l'action du Saint-Esprit. On n'y croit pas assez. Il faut que chacun d'entre vous, vous croyez à l'action du Saint-Esprit, en vous, pour votre vie personnelle et pour vous guider au service de l'Église. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, vous renouvellerez la face de la terre. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.